Boenton, à voix nue. Entretien en 5 épisodes avec
Jean-François Bilater.
Bonjour Jean-François Bilater.
Bonjour.
Comme vous le savez, j'attendais ce moment depuis longtemps. Vous m'avez, comme bien d'autres, beaucoup influencé, alors que vous ne courez pas les médias, ni les colloques, ni les rencontres littéraires. Non, vous m'avez influencé par votre œuvre, découverte petit à petit, comme on entre dans un monde de plus en plus familier, de plus en plus résonnant, mais de plus en plus net. Et je sais, pour en avoir parlé avec votre éditeur, Gérard Berryby, qui a fondé et dirige la maison d'édition Alia, qui a publié l'ensemble de vos ouvrages, au nombre d'une vingtaine à ce jour, que nous sommes nombreux dans ce cas, dans tous les milieux.
Ce que vous dites là m'étonne, parce que je vis dans le silence, au fond, j'ai très peu d'écho. J'apprends parfois qu'on parle de moi ou qu'on m'a lu. C'est toujours un sujet d'étonnement, parce que cette rumeur ne me parvient pas en général.
Alors, vous avez pendant 40 ans enseigné les études chinoises à Genève, où vous nous recevez aujourd'hui chez vous. Puis vous êtes mis à écrire pour être publié, s'entend, sur le tard, après avoir pris votre retraite à 60 ans. 25 ans plus tard, et presque autant d'ouvrages sur la Chine, des penseurs chinois, mais aussi l'Europe, et ce qu'elle pourrait ou devrait être demain, sur un philosophe allemand des Lumières méconnues, des artistes, Bonnard, Giacometti et d'autres encore, où vous développez une pensée qui vous est propre, une pensée du sujet. Alors je ne dis pas une philosophie, et je ne vous dis pas philosophe ni écrivain, je crois que vous n'aimez pas trop ces étiquettes d'ailleurs. En démarrant cette émission, vous avez refusé d'accoler une quelconque étiquette après avoir décliné votre identité. Pourquoi ?
Oui, attendez, je vous reprends sur un détail. Vous dites que j'ai quitté l'université pour écrire et pour publier. Non, je n'avais pas cette intention, je n'avais pas de projet. Je me suis mis au travail sur des choses qui m'intéressaient. Il en est résulté des textes qui ont été publiés par Alia. Et de fil en aiguille, il en est résulté l'ensemble d'écrits que vous connaissez. Mais il n'y avait pas de projet d'écriture au départ.
Alors, je dois vous faire part, pour cette raison, d'une difficulté, Jean-François Bilater, d'emblée. Le principe des avoignues est biographique. Et en général, quand on interroge un intellectuel, on peut suivre son parcours au gré de ses œuvres. Dans votre cas, donc, c'est plus compliqué pour cette raison, car vous êtes mis à publier à l'âge de 60 ans.
Oui.
Et cela dit, parmi vos ouvrages, il en est des plus biographiques que d'autres.
Oui.
Notamment un qui raconte une rencontre,
oui.
Une rencontre à Pékin, au début des années 60, donc on pourrait peut-être commencer par là, une double rencontre, plutôt.
Oui, alors c'est la rencontre de mon épouse. Lorsque j'étais étudiant à Pékin, j'ai débarqué à Pékin en 63 pour faire des études de chinois. J'avais déjà terminé les études de lettres. Je me suis intéressé au chinois un peu par hasard. C'était un espèce de pari. J'étais pas du tout sûr que ça aurait une suite. Et c'en a eu une. Parce qu'au fond, je ne savais pas encore ce que je voulais faire de ma vie. Les choses sont devenues sérieuses une fois à Pékin. Parce que premièrement, l'apprentissage du chinois m'a vraiment intéressé. Et deuxièmement, parce que j'ai rencontré ma femme. Alors évidemment que les choses sont devenues plus sérieuses à partir de ce moment-là. Et toute la suite de ma vie jusqu'à aujourd'hui en a découlé.
D'ailleurs, nous enregistrons cette émission au mois d'avril 2025 chez vous à Genève, je l'ai dit, où vous avez vécu avec votre épouse, Wen.
Oui.
Et je crois me souvenir que ce mois d'avril est un peu particulier pour vous et pour elle surtout. C'est le mois de sa naissance.
Le 12.
Et c'est aussi le mois de votre rencontre avec elle.
Ce que vous dites est vraisemblable. Ça pourrait bien avoir eu lieu en avril.
Donc vous rencontrez à la fois votre épouse et vous rencontrez la Chine.
J'étais arrivé en Chine quelques mois plus tôt. Et je m'étais mis à l'apprentissage de la langue qui m'a passionné, je dois dire. J'avais commencé le chinois sur un coup de tête une année plus tôt à Paris. En débarquant à Pékin, j'étais très fier et j'ai dit aux gens qui me recevaient qu'attention, je n'étais pas un débutant, que j'avais fait une année à Paris. Ils m'ont dit, on va vous soumettre un petit test et on verra bien. Et le petit test a dit, bon, on vous dispense des 3 premières semaines de cours ici.
Ah.
Pour mon année à Paris.
Et pourquoi aviez-vous fait ce choix au départ de
Mais
Paris ?
Tout ça sont des hasards. C'est-à-dire qu'après avoir terminé mes lettres, je ne savais pas que faire de moi-même. Je m'intéressais cependant à beaucoup de choses, un peu au hasard, et j'avais trouvé au puce une grammaire de chinois que j'avais en main le jour où mes parents me disent « Écoute François, c'est comme ça qu'on m'appelait en famille, soit tu refais des études, mais on veut savoir lesquelles, et il faut que ce soit sérieux. À ce moment-là, on joue le jeu, ou bien alors tu te débrouilles, s'il te plaît. Et comme j'avais cette grammaire de chinois en main, je me suis dit, voilà, je vais faire du chinois.
Sur un coup de tête.
Ben, absolument. Et alors, de là ensuite, j'ai eu l'idée d'aller faire du chinois à Londres, parce que je me suis dit, du coup, j'apprendrai l'anglais. À Londres, j'ai été mal reçu, on m'a tenu pour un individu pas sérieux. Donc ça a été Paris. Et une année à Paris. Et puis là, quelqu'un m'a signalé que du moment que j'étais citoyen suisse, je pouvais aussi bien faire du chinois à Pékin plutôt qu'à Paris. Alors que moi, j'étais infiniment fier d'avoir foulé le sol parisien. Et voilà qu'il était question d'aller à Pékin. Parce qu'il y avait des relations diplomatiques déjà anciennes entre la Suisse et la République populaire de Chine, qui n'existaient pas encore entre la France et la Chine. Charles de Gaulle n'avait pas encore rétabli les relations diplomatiques, c'est venu l'année suivante.
Alors permettez qu'on remonte un peu en arrière, oui. Puisque vous évoquez vos parents, vous êtes né à Bâle,
oui.
De parents neuchâtelois.
C'est ça.
Accepteriez-vous de nous parler un peu d'eux ? Votre père était lieutenant-colonel, je crois, dans l'armée, chimiste,
oui, oui.
Dans le civil.
Oui. En France, ça peut impressionner quand on dit qu'on a eu un père lieutenant-colonel. En Suisse, ça n'est pas du tout la même chose. On a une armée de milices ici.
Et votre mère ?
Alors, ma mère était pianiste, mais elle n'a pas fait de carrière de soliste. Elle donnait des leçons. Et donc mes parents étaient neuchâtelois, mais je suis né à Bâle parce que mon père a trouvé un emploi dans la chimie à Bâle. Et donc ma langue maternelle, c'est le français, mais j'ai appris ensuite l'allemand au jardin d'enfants, c'est-à-dire à l'école maternelle. Il paraît que pendant une année, j'ai pas ouvert la bouche, mais qu'ensuite à l'école primaire, ben j'ai appris d'abord le balois, le dialecte balois, et puis ensuite l'allemand, ce qu'on appelle le bon allemand, l'allemand d'Allemagne. Et puis au fond, quand j'y pense maintenant, je suis très étonné parce que je n'ai aucun souvenir d'avoir eu la moindre difficulté. Au fond, je ne sais pas comment j'ai appris ces langues. Je pense qu'il y a deux faits qui jouent un certain rôle. D'abord que j'ai appris le français par mes parents uniquement, en particulier par mon père qui est devenu chimiste mais qui avait des goûts littéraires et qui a su nous enseigner, à moi et mes sœurs, le français, non seulement le français mais le goût du français et le sens de la correction en français. Et je crois que ça c'est quelque chose que je lui dois et qui est très précieux.
Ils ne voyaient pas d'un très bon œil, vos parents, le voyage en Chine.
Non, pas partir pour la Chine à ce moment-là. C'était partir vers un pays totalement fermé, sur lequel on ne savait quasiment rien, sinon qu'il y avait un parti communiste et des famines. C'est tout ce qu'on savait. Et donc, c'était évidemment pour moi un peu audacieux. Enfin, je sortais du chemin battu, là.
Ouais. Et vous étiez, disons, plus de gauche que vos parents ?
Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Comme jeune étudiant, j'ai voulu, comme adolescent d'ailleurs déjà au collège, je trouvais pesante l'atmosphère qui régnait en Suisse, moralement et politiquement. Et donc, comme on fait à cet âge-là, ben je me suis remué avec mes copains, et puis j'ai voulu comprendre le monde autrement que mes profs du collège. Et puis ensuite, excusez-moi, j'ajoute une petite chose, c'est que quand j'ai commencé le chinois à Paris, ensuite, alors je me suis trouvé plongé dans une vie de gauche. Je passais beaucoup de temps à la Huchette chez Maspero, j'ai beaucoup lu, j'ai découvert Marx, et puis à partir de là, j'ai découvert beaucoup de choses.
Vous aimez pas qu'on vous présente comme un Suisse, hein, vous l'avez un petit peu indiqué, vous le dites dans le propre du sujet qui est paru en 2021, que vous êtes balois de naissance et que c'est genevois d'adoption.
Enfin, la remarque sur la Suisse, elle vient de remarques qui ont été faites souvent à Paris, lorsqu'on me présentait lors d'une conférence ou d'un colloque, on me disait un sinologue suisse. Et pour moi, un sinologue suisse, ça ne veut rien dire. Surtout que sinologiquement, je suis complètement parisien. Et donc, qu'on me rappelle mon passeport quand je vais prendre la parole, ça me paraissait absurde. Voilà.
Il y a un autre philologue très célèbre qui est associé à Bâle, Friedrich Nietzsche.
Nietzsche. Vous savez qu'on dit en allemand, on dit Nietzsche.
Qui vous arrive de citer d'ailleurs de traduire.
Oui, oui.
Est-ce que vous sentez une parenté avec lui ? Il me semble qu'il y a des éléments de votre pensée de l'activité qui sont communs.
Alors là, il faudrait examiner cela. Je ne vois pas tout de suite. Par contre, il y a quelqu'un de beaucoup plus important, c'est Jakob Burckhardt, l'historien, qui a été le maître de Nietzsche, et pour lequel j'ai alors la plus grande admiration. Mon admiration pour Burckhardt, elle est très très grande. Pour Nietzsche, elle s'accompagne de sérieuses réserves. Comme je l'ai dit, je crois, dans un de mes essais, lorsqu'il était à Bâle, pendant sa période bâloise, lorsqu'il était encore très jeune, il a écrit Unzeitgemäße Bemerkungen en allemand, en français, c'est
dissertations sur l'histoire, non?
Intempestives, les remarques intempestives. Voilà. Alors, ces essais-là, de cette période-là, je les trouve absolument merveilleux. Et puis ensuite, ce qu'il est devenu ensuite, alors là, je ne le suis plus du tout.
Oui, vous écrivez, il a été un grand critique, puis il est devenu un mauvais philosophe.
Voilà, c'est une formule, c'est un raccourci que j'assume.
Mais il me semble que vous avez en commun la philologie, une certaine conception de la philologie critique. Et d'ailleurs, si vous me permettez, je vais vous poser une question de ma propre mère. C'est quelle différence faites-vous, une question toute simple, entre un linguiste et un philologue ?
Ah, ça n'est pas du tout la même chose. Un philologue, c'est traditionnellement, en Allemagne surtout, un philologue, c'est quelqu'un qui étudie l'histoire ancienne, les civilisations anciennes, par les textes. Et qui, d'abord, se trouvant face aux textes, doit mettre au net les textes pour ensuite les comprendre de la façon adéquate. Ça, c'est la philologie. Et lorsque j'ai commencé le chinois à Paris, dans les années 60, eh bien, la sinologie, c'était encore une philologie. Ça voulait dire l'étude de la Chine, plus ou moins ancienne, par les textes. Cette idée de la sinologie en tant que philologie, elle a été au départ de mon étude de la Chine. Mmh. C'est une idée qui n'a plus cours maintenant. Mais qui est, alors j'ajoute, qui est au cœur de l'œuvre de Nietzsche, du jeune Nietzsche, absolument.
Après votre première année à Pékin, il y a un bref retour en Suisse entre votre première et votre deuxième année. Et lors du retour en transsibérien, vous racontez dans une rencontre à Pékin que vous traversez une crise, dites-vous.
Après une année à Pékin, je suis revenu pour rassurer mes parents, au fond, principalement. Donc j'ai fait l'aller-retour. Et c'est au retour à Pékin, dans le Transsibérien, que j'ai fait une crise, oui. Parce que, entre-temps, Charles de Gaulle avait reconnu la Chine. Et donc les amis que je m'étais faits à Paris, à Langzhou, aux Langues orientales, et que j'avais devancé à Pékin, ils venaient à leur tour.
Donc vous n'étiez plus pionnier.
Voilà.
Alors que vous avez été, je crois, le premier...
Alors j'ai été le premier...
Premier occidental, premier européen,
occidental,
on pourrait dire.
Occidental, c'est trop dit. L'un des premiers, oui, c'est vrai.
Et de quoi viviez-vous à l'époque quand vous étiez à Pékin, et à quoi ressemblait la Chine aussi ? Alors il y a plusieurs questions. Et comment avez-vous réussi à vous marier finalement avec Wen ? Ça fait beaucoup de questions, mais...
Je vais vous répondre en plusieurs points. D'abord, un étudiant étranger vivait sur le campus. Il n'avait pas le choix. Ça allait de soi. Mais comme tous les autres étudiants, d'ailleurs. Première chose. Ensuite, deuxième chose, j'avais une bourse qui était très, très modeste du point de vue suisse, mais qui faisait de moi un homme riche en Chine à cause du taux de change, simplement. C'est pour ça que j'ai pu commencer tout de suite à acheter beaucoup de livres que vous voyez ici en partie. Ce sont ces livres-là. Ensuite, alors, est venu le hasard qui a fait que je rencontre Wen, mon épouse, et que très vite, nous avons été mis au défi, au fond, de décider si nous voulions nous marier ou pas. Et il fallait soit que nous décidions de nous marier, soit que nous nous séparions. Il n'y avait pas de moyen terme. Quand on m'a remis mon premier visa ici, avant mon premier départ, la diplomate qui m'a remis mon visa... m'a dit, Monsieur Billetter, il faut que je vous avertisse que à l'université en Chine, il n'est pas question qu'un étudiant et une étudiante quelconque aient un rapport personnel de quelque nature que ce soit. Ça vaut pour les Chinois, mais ça vaudra pour vous aussi. Donc, j'étais prévenu.
Mais vous avez aussitôt bravé cette interdiction. Voilà. Je crois qu'à l'époque, vous rédigiez le guide Nagel, donc qui est une sorte de guide du routard, j'imagine.
Non, c'est un diplomate de l'ambassade de France qui s'appelait Giraud, si j'ai bonne mémoire, avait reçu de l'éditeur Nagel, ici à Genève, la mission de préparer le premier guide touristique de la Chine, République populaire de Chine. Et il avait des fonds pour cela. Et il a commencé à distribuer ces fonds à nous, les étudiants français, moi compris. Et Alors pour nous, ça a été une source de financement absolument extraordinaire. Et donc, de petits guides, nous avons fait un énorme guide qui est un énorme pavé, je peux vous le montrer tout à l'heure, parce que c'était très profitable de rajouter des chapitres et des chapitres. Mais nous avons beaucoup travaillé et ce guide de Nagel est resté un classique. C'est un gros pavé, c'est pas du tout un livre de poche. L'argent que j'ai gagné en contribuant plusieurs gros chapitres au guide Nagel m'ont permis ensuite, lorsque j'ai pu enfin épouser Wen, mon épouse, de faire à deux un voyage à travers la Chine.
Alors on va y revenir à cette réussite finale, qui est de l'ordre de l'enlèvement quasiment, hein, consenti bien sûr de sa part à Wen, mais quand vous quittez la Chine, c'est presque en catastrophe.
Ah ben non, pas du tout, c'est pas un enlèvement, parce que du moment que nous étions mariés, nous avions, il était allé, et puis qu'elle avait le passeport suisse. Donc notre sortie de Chine n'est pas un enlèvement du tout, c'était absolument régulier.
Mais en tout cas, auparavant, il y a eu bien des complications.
Il a fallu mener une partie difficile, dangereuse pour elle, et que, à la suite de circonstances totalement imprévues, mais qui ont joué en notre faveur, nous ayons réussi à nous marier. C'est ce que je raconte dans Une rencontre à Pékin.
C'est-à-dire qu'à l'époque, à ce moment-là, la situation politique est de plus en plus compliquée.
Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part que les rapports entre des amis étrangers, comme on nous appelait officiellement, et puis la population chinoise étaient strictement contrôlés. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a autre chose, c'est que pendant les 3 ans que j'ai passé à Pékin à ce moment-là, il y a eu une situation politique de plus en plus tendue qui a mené à la révolution culturelle.
Cette situation politique qui va amener à la révolution culturelle, vous ne la comprenez pas sur le moment.
Mais personne ne comprenait.
Hein. Ce n'est que bien des années plus tard que vous la comprendrez.
Il a fallu beaucoup de temps. Lorsque plus tard j'ai enseigné, d'abord à Zurich, assez longtemps, et puis ensuite ici à Genève, eh bien les étudiants me demandait, sachant que j'étais allé en Chine, que je lisais le chinois, me demandait des explications sur la révolution culturelle. Moi, je ne pouvais faire autre chose que leur expliquer la ligne officielle. Et je savais très bien que je ne touchais pas à la réalité, mais je n'avais pas les ressources intellectuelles nécessaires pour expliquer et rendre intelligible ce que j'avais vécu. Parce que je savais très bien que le discours officiel et ce que j'avais vécu, c'était 2 choses entièrement différentes. Mais je n'avais pas le moyen intellectuel d'expliquer réellement ce qui se passait en Chine. J'ai été tout le temps à la recherche d'instruments qui me permettent de comprendre ce qui se passait en Chine, ce que je connaissais un peu par moi-même. Et donc, il y a eu là des points de bascule. Par exemple, un point de bascule capital, ça a été Claude Lefort, lorsque j'ai lu une étude de lui sur c'était une critique de la bureaucratie qui a paru chez Drault, ici, si je me souviens bien. Et il y avait là une étude qui montrait de façon absolument lumineuse comment, dans le cas soviétique, un parti révolutionnaire qui agit dans le secret, parce qu'il y est obligé, devient totalitaire une fois qu'il est au pouvoir. Là, je raccourcis beaucoup. Oui. Mais alors là, je me suis dit, voilà, j'ai une clé.
Vous avez une clé. Et ça vous a permis de relire l'histoire chinoise.
D'abord ce que j'avais vécu.
Bien sûr.
Alors, c'était un premier pas. Puis, il y a eu l'année suivante, on est en 1973. Encore une chose beaucoup plus importante, c'est Castoriadis, l'institution imaginaire de la société, que j'ai lu tout de suite en entier. Et il montrait qu'une société se tient par l'imaginaire, et que les sociétés marxistes se tenaient par un imaginaire particulier, mais que, là c'était le raisonnement de Castoriadis, que le sujet humain est toujours capable de révoquer en doute un imaginaire fondateur et de le remplacer par un autre. Et alors là, ça a été une libération fantastique sur le plan intellectuel.
On y reviendra dans un prochain épisode, mais si on reste sur la Chine et qu'on se réfère à l'ouvrage Chine 3 fois muette, par exemple, qui est un ouvrage dans lequel vous embrassez des siècles d'histoire chinoise, dans cet ouvrage, vous remontez au premier millénaire avant notre ère.
Mais c'est lié à Castoriadis. Vous voyez le rapport, sans doute. C'est que pour comprendre la Chine, j'ai mis beaucoup de temps. Les choses ont mis beaucoup de temps à mûrir. Et je crois que j'ai fini par avoir une certaine interprétation de l'histoire chinoise dans son ensemble, puisqu'il a fallu que je l'enseigne. Parce que quand vous enseignez, il faut rendre la matière intéressante. Et elle devient intéressante quand elle commence à être intelligible. Et donc, de ce point de vue-là, l'enseignement vous pousse à faire des efforts qu'on ne ferait pas sans ça. Et à un moment donné, il m'est venu cette idée que l'histoire politique de la Chine, parce que pour moi, la Chine, c'est d'abord une tradition politique. Et cette tradition politique, elle a une origine. Elle est situable exactement dans le temps. Et il y a eu, à mon avis, une invention, donc l'invention d'un système politico-social et religieux en même temps. Et j'ai pu me faire une idée de cela, parce que Castoriadis m'avait fourni l'idée de l'institution imaginaire de la société. Donc le travail sur la Chine, pour moi, il est absolument indissociable de la vie intellectuelle, en France principalement, ailleurs aussi.
Je comprends.
Oui.
Et donc ce moment fondateur, vous dites, c'est le roi Zhou. Je prononce
non, c'est
bien.
C'est pas le roi, c'est l'origine de la dynastie des Zhou.
Qui fut, écrivez-vous, un moment de cristallisation capitale.
Oui.
L'ordre qu'ils ont créé se retrouve ensuite plus ou moins transformé tout au long de l'histoire chinoise.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une matrice là. Et cette matrice, eh bien, elle est née dans une situation de crise où il a fallu inventer quelque chose. Et je pense que cette matrice, eh bien, elle est restée matricielle, si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui.
Mais vous écrivez également à ce sujet que l'esprit général qui caractérise la Chine me paraît tenir avant tout à la prépondérance de cette catégorie du stratégique depuis les Zhou jusqu'à nos jours. Et donc, je me demandais comment vous situez l'épisode maoïste au cours duquel vous avez rencontré votre femme dans cette histoire longue.
Oui, mais alors l'idée est que, à un moment donné, vous savez, beaucoup de ces choses sont venues par l'enseignement. Parce que quand vous avez face à vous des étudiants qui cherchent à comprendre, vous-même vous cherchez à comprendre, et ça vous fait faire un pas en avant de temps à autre. Mais souvent ça vient aussi par des lectures. Et puis vous savez que dans les années 80 en Chine, l'activité intellectuelle a été extraordinairement stimulante. Ça a été il y a une période de 10 ans là. Et donc là il y a des livres extrêmement intéressants qui sont parus, que j'ai lus, que j'ai là. Et donc l'idée que ce qui est fondamental en Chine et qui est l'équivalent de ce que nous appelons la politique, ou plutôt le politique, eh bien, en Chine, c'est autre chose, c'est le stratégique. C'est-à-dire que le pouvoir, il n'est pas l'expression de la politique, c'est-à-dire finalement, historiquement, de la police, c'est-à-dire de la cité grecque, où il y a débat, où il y a un collectif qui a l'ambition de déterminer ses propres lois et d'être libre à la faveur de les lois qu'il s'est données. Cette idée-là, qui est l'idée de la police, elle est absolument absente de Chine. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a du côté chinois? Et alors, l'un des auteurs que j'ai lu dans les années 80, un certain Hu Xingming, m'a fourni une idée qui m'a convaincu. C'est que lorsque nous pensons politique, donc le politique, de notre côté, du côté chinois, il ne faut pas chercher l'équivalent, parce que du côté chinois, c'est autre chose, c'est le stratégique. C'est-à-dire que le pouvoir est un pouvoir d'action, d'intervention.
Et cette Chine que vous quittez alors avec Wen, nous sommes
en 66.
En 66, diriez-vous qu'elle a disparu? La Chine que vous aviez découverte, étudiant, jeune homme, architecturalement celle-ci, vous dites dans une rencontre à Pékin que lorsque vous y revenez ensuite avec votre femme, et bien des années plus tard, vous ne retrouvez plus ce Pékin dans lequel vous étiez arrivé, jeune homme.
Ah si, parce que j'y suis arrivé en 63, je l'ai quitté en 66, mais lorsque nous avons enfin pu y retourner en 75, matériellement, Pékin n'avait pas changé. Rien n'avait été construit. La population s'était multipliée, il y avait une crise du logement indescriptible, parce que rien n'avait été fait pendant toutes ces années-là. Et donc, le Pékin que j'avais matériellement connu, ben, il était encore là. C'est ensuite qu'il a changé.
Ouais. Et vous avez évoqué tout à l'heure le voyage que vous avez fait ensuite avec votre femme à travers la Chine. Donc, ce qui vous a permis de rencontrer aussi, de découvrir aussi la Chine profonde.
Alors, profonde, non, parce que un étranger comme moi, il était soumis à une discipline policière stricte quand il se déplaçait en Chine. Il fallait un espèce de passeport intérieur prévoyant exactement les étapes. Lorsqu'on sortait du train, il fallait aller à la police de la gare pour faire tamponner cette espèce de idem au départ. Donc, c'est pas la Chine profonde, loin de là. La Chine profonde, elle était totalement inaccessible. Mais au moins, j'ai pu, avec Wen, mon épouse, quitter Pékin, à voir quelques autres villes et apercevoir quelques autres paysages.
Je vous posais cette question parce que dans Chine trois fois muette, vous oui. évoquez cette Chine profonde
oui.
en disant que c'est celle que personne ne visite ou que personne ne veut voir quand il l'a sous les yeux.
Mais oui, mais ça que j'écris ça beaucoup plus tard. Parce que lorsqu'on a commencé à pouvoir aller en Chine et à s'y déplacer de plus en plus librement, donc dans les années 80, on a commencé à découvrir progressivement un peu la Chine profonde. D'ailleurs, pas seulement par le voyage, mais aussi parce que des étrangers ont eu à faire des enquêtes. Et puis aussi parce que les Chinois eux-mêmes, par la littérature, par le cinéma, ont commencé à découvrir d'abord pour eux-mêmes ce que c'était que leur propre pays. Parce qu'à l'époque où j'étais étudiant, aucun Chinois ne voyageait. Ma femme n'avait jamais quitté Pékin. Elle a quitté Pékin grâce à moi. Il faut voir comment a évolué la connaissance que les Chinois eux-mêmes ont eue ou n'ont pas eue ou ont acquis au fil des années et de l'évolution du régime.
Et Wen, qui était, je me demandais, qui était médecin de formation
oui.
et qui a choisi de vous suivre
oui.
en Europe,
oui.
A-t-elle regretté d'abandonner sa carrière de médecin?
Oui, jusqu'au dernier jour de sa vie, parce que c'était vraiment ça sa vocation, et ici elle n'a pas pu pratiquer cette profession, et donc elle est devenue ma collègue, notre collègue, un rôle auquel elle n'était absolument pas préparée, mais qu'elle a bien rempli.
Très bien. Nous allons vous suivre de retour en Europe, à Paris, où vous allez
oui.
croiser des maoïstes d'un autre genre.
Pas beaucoup.
Vous allez poursuivre vos études avec votre femme, vous l'avez dit, puis vous irez ensemble au Japon, à Hong Kong. Mais de tout cela, nous parlerons dans le deuxième épisode, si vous le voulez bien.
Oui.
Vous pourrez peut-être m'expliquer ce qu'est un maoïste par rapport à un léniniste, un trotskiste ou un gauchiste. J'ai jamais bien saisi la nuance, personnellement. À demain, Jean-François Billetter.
Alors à demain.
À voix nue, avec Jean-François Billetter, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'entretiens proposés par Thibaut Henton pour France Culture, à retrouver sur le site et sur l'application Radio France.